C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, Jean Genet, 1910-1986. Écrivain, français, homosexuel, enfant abandonné, pauvre. Œuvre, Querelle de Brest, 1947. Personnage, Georges Querelle. Adaptation, Querelle, film de Rainer Werner Fassbinder en 1982. Le rôle de Georges Querelle étant interprété par Brad Davis. Il n'est pas impossible que les romans ayant des criminels pour personnages, et même pour héros, soient la revanche de ces étranges livres apparus en France en 1828, Les Souvenirs de policiers. C'est cette année-là que Vidocq, l'ancien repris de justice, comme on disait, devenu chef de la police, a publié les siens. Assez d'idéalisation de l'ordre, on veut des voyous, on veut les voir de leur point de vue, et non pas de celui des flics. On n'avait pas manqué de prostituées, de voleurs, de vicieux de tous ordres, flattés par la fiction. Mais, d'une part, on n'y trouvait pas d'assassins, à part dans Sade, mais ses livres ont été publiés posthumes à l'exception de Justine, lequel ne l'a été que dans une édition clandestine à vocation pornographique. D'autre part, c'était sous des régimes monarchiques. Les libertins, et avant eux les auteurs picaresques, pouvaient avoir un regard condescendant et amusé sur la canaille, puisque non seulement on lui coupait le cou, mais c'était les maîtres qui parlaient en leur nom. Après la Révolution française, ce qu'on appelle le peuple donne un coup de pied dans la porte de la littérature et y entre. Cela reste pourtant assez peu lui qui parle, toujours les maîtres et des maîtres inquiets. Ils vont parler des criminels à partir des conceptions d'une société bourgeoise devenue de plus en plus policière, qui a établi des critères de jugement acceptés par les romanciers, pour la plupart des bourgeois. Je ne crois pas qu'ils allaient dans ce qu'ils appelaient les bas-fonds, ils acceptaient ce qu'en disait le bruit de la police. Une très intéressante thèse d'histoire soutenue en 2009 tend à montrer qu'un lien nécessaire a été supposément établi par la police et en réalité imposé par elle entre homosexualité et criminalité. C'est parce que l'homosexualité dégoûtait les policiers qu'ils en induisaient un lien avec la personnalité criminelle. C'est quelques années après Vidocq, en 1835, qu'apparaît dans le père Goriot le personnage de Vautrin, homosexuel et assassin. Le lien n'est pas exposé directement par Balzac, mais on peut fortement le supposer. 100 ans après, d'une certaine façon, Querelle de Brest, le roman de Jean Genet, ce splendide roman qui fait l'effet d'un lustre de cristal noir balançant ses pendeloques au-dessus de rues malfamées, participe encore de cette idée. Georges Querelle, matelot homosexuel, est un assassin et Genet y met un rapport de conséquence, quoique imprécis. Je voudrais que dans ce personnage en personne, nous évitions la psychologie. Sartre en a fait 800 pages qui enferment le romancier dans une chaîne de comportements inéluctables et la littérature n'est pas que la conséquence de ce qu'on a vécu. Il y a l'imagination. Ce roman théâtral en est plein. Théâtral, il l'est dans le sens où les personnages évoluent entre peu de lieux, un bordel, un bagne, et y accomplissent des gestes dans lesquels ils voient des signes. Qui est Georges Querelle? Pour en parler, je reçois Stéphanie Pollack, romancière et éditrice chez Fayard. Stéphanie Pollack, il faut dire, avant toute chose, je crois que Querelle de Brest est de la littérature cultivée et pas du tout, comme on en a accusé Genet, de la pornographie. J'ai rien contre la pornographie, mais je pense qu'elle est incompatible avec la littérature, dans le sens où elle a une intention d'excitation sexuelle qui est autre chose que la pensée à quoi, disons, tente de s'appliquer la littérature.
Oui, les personnages de Genet sont des personnages qui, moi, m'intéressent parce qu'ils sont, le personnage de Querelle en particulier, parce que c'est un personnage anomique, comme beaucoup de personnages forts en littérature, c'est-à-dire que c'est des personnages qui génèrent du désordre parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que générer du désordre. Mais il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas d'intention chez eux comme il y a d'intention, par exemple, dans l'art pornographique. Ils sont sensuels et ils en jouent. Ils se font aimer beaucoup plus qu'ils aiment. Mais il y a là-dedans une absence d'attention absolue. Il y a une candeur. Ce qui est bouleversant chez Querelle, c'est qu'il y a un mélange de candeur et de sens de la manipulation qui le rend éminemment dangereux. Et je pense que ce qui le rend dangereux, précisément, c'est sa candeur.
À quoi ressemble Georges Querelle? Physiquement, à quoi il ressemble?
Alors, la chose qui apparaît d'abord, il est beau. Il est très beau. Une beauté austère, nous dit Genet. Une beauté sévère qui se verra rehaussée encore par le crime. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion, effectivement, d'en reparler. Comme souvent, hein, chez Genet, c'est un marin. Et l'uniforme du marin, l'habit, le vêtement, est quelque chose d'absolument essentiel aussi à son personnage. Il y a des passages où Genet nous explique que son caban le rassure, ça lui confère presque une espèce d'autorité qui l'aide à rayonner de manière encore autre, ce qui est assez fort, parce qu'il pourrait y avoir quelque chose de kitsch, et Dieu sait que Genet flirte avec l'écueil du kitsch, mais par l'espèce de force absolument subversive de sa prose poétique, on ne tombe jamais dans le kitsch, quelque chose, le kitsch se voit transfiguré, il devient autre chose. Donc il est ce marin, et parce qu'il est un marin, il n'est peut-être pas tout à fait un homme non plus, il est peut-être un peu plus qu'un homme, hein. Il devient presque une espèce de créature mythologique qui évolue comme ça entre la masse fauve, fluide et irascible qu'est la mer, et puis des réalités plus terrestres et granitiques qu'incarne la ville de Brest. Donc oui, il a ce côté un peu créature, mi-homme, mi-demi-dieu, mi-animal, ou si on l'approche à travers un prisme un peu plus chrétien, il a quelque chose de pré-pasolinien aussi. Il y a quelque chose un peu du personnage de Théorème dedans. Il est entre la guape et le dandy, et il apparaît, nous dit Genet, comme l'anguleuse luminosité d'un accident. J'aime bien aussi cette notion d'accident, parce que je crois que c'est un personnage qui fait très tendrement effraction dans la vie des gens qu'il rencontre et dans les environnements des lieux qu'il investit.
Il est entre l'homme et le bateau en réalité, puisqu'à un certain moment, le narrateur dit qu'il se transforme en le querelle, comme on dit, l'indomptable,
absolument,
comme le bateau.
Une espèce d'avatar du vengeur. Voilà. Et puis c'est aussi peut-être une incarnation de la ville de Brest elle-même, puisque Brest, il y a une dans l'étymologie, je crois, renvoie à l'idée de bretteur, et il y a l'idée de querelle, en fait, dans le nom même de la ville de Brest. Donc il est presque l'allégorie de la ville qu'il investit.
Je vais préciser qu'il est brun, vous ne me l'avez pas dit, qu'il est musclé et qu'il, et qu'il a des pieds ravissants. Je ne sais pas ce que c'est que des pieds ravissants, mais on nous le dit. Il est aussi, Stéphanie Pollack, très souvent, par le narrateur du livre, caractérisé par sa démarche.
Oui, une démarche qui est à la fois offensive et butée, si je me souviens bien, ça m'avait marqué. C'est quelqu'un effectivement dont le corps au repos laisse présager de la manière dont il va se voir littéralement glorifié par l'action et par le mouvement. Et il le sera d'autant plus évidemment que à bien des moments dans le livre, ce mouvement, c'est celui du meurtre.
Il roule des épaules et il garde les poings serrés au creux des poches, dit le narrateur à un certain moment. C'est-à-dire qu'il joue aussi une espèce de comédie de sa démarche, probablement.
Il y a sans doute, oui, une part de jeu. De toute façon, moi, ça, je crois que ce qui revient beaucoup, c'est le génie ironique de Querelle, le génie ironique, le génie sarcastique. C'est quelqu'un qui est dans le jeu. Je pense que autant le personnage, par exemple, de Lysiane, qui est le personnage féminin,
qui est la tenancière du bordel.
Voilà, la tenancière du bordel, la Feria. Elle est toujours, presque toujours dans le drame. L'homme, quand il est viril, n'est presque jamais dans le drame. Il est dans l'indifférence, il est dans le jeu, il est dans le génie ironique, il est dans le sarcasme. Et Querelle, par la façon dont il se met en scène, même parfois de manière effectivement théâtrale, voire putassière, hein, il y a plein de moments où sur le bateau, il est même putassier. Il y a là-dedans une virilité parce qu'il y a un sens du jeu.
Au début du roman, Genet a une phrase qui, à mon avis, montre très bien la différence entre une personne et un personnage. Après avoir signalé sa passion pour Querelle qu'il dit avoir connue, le narrateur ajoute « Pour devenir un personnage de roman, il doit être montré hors de nous-mêmes ». Alors, qu'est-ce qui arrive hors de Genet? C'est-à-dire, quelles sont les aventures qui arrivent à Querelle au cours du livre?
Querelle, en fait, arrive, on sait qu'il a tué, on sait qu'il arrive, il y aura un certain nombre de flashbacks sur les meurtres qu'il a commis avant, au Maroc, à Beyrouth. Et donc, il arrive là, à Brest, et il déboule au Feria, où il y a son frère et Lysiane et Norbert qui sont les tenanciers du bordel en question. C'est un bordel qui jouit d'une aura comme ça assez fabuleuse. Et il va, malgré lui, créer le trouble au sein de ce bordel et obliger les gens à sortir de leur solitude. Tout à coup, rencontrant Querelle, il y a un passage qu'il le dit, je pourrais le citer tout à l'heure, je l'ai noté, que je trouve assez beau. Les gens sortent de leur solitude parce qu'ils sont confrontés tout à coup à une autre version d'eux-mêmes à travers la sexualité que leur propose de vivre Querelle, et une fois qu'il s'absente, puisqu'on le verra aussi, je pense, mais Querelle est un personnage qui finit toujours par s'absenter. Il laisse les gens livrés à eux-mêmes, retrouvant leur solitude et ne sachant plus exactement quoi en faire.
Il y a une chose qui caractérise Querelle, outre sa démarche, nous l'avons dit tout à l'heure, et son sourire, car Genet en parle très souvent, son sourire, mais aussi, et ça me paraît très important, car je crois que c'est la première fois qu'on le faisait dans un roman sérieux, de son pénis. parler du sexe avait été autorisé pour les femmes tout à fait autant qu'on voulait, mais pas des hommes. Et Genet, je crois, pour la première fois dans un roman de littérature, invente ce qu'un homme, cet homme, peut ressentir avec cette part de son corps, et en particulier au moment d'une érection. Je trouve ça très nouveau.
Oui, et puis les actes sexuels en eux-mêmes sont aussi extraordinairement détaillés. Le moment de la sodomie de querelle, le moment où il accepte donc de jouer au dé et d'après le tenancier Norbert du bordel, triche pour perdre, pour pouvoir s'offrir à lui, parce qu'on le découvrira aussi, moi ça je trouve ça assez passionnant, quand il s'offre, lui, il n'aime pas. Et surtout, il ne se soumet pas. Il oblige les autres, dans leur abandon, à se soumettre et à révéler la part féminine d'eux-mêmes. Donc il fait bouger complètement les lignes de ce qu'on imaginerait pouvoir relever du féminin et du viril. Et l'acte sexuel en lui-même, le moment même de la pénétration, est un moment qui se voit décrit.
Enfin, pardon, mais qui n'est pas spécifiquement décrit, qui est évoqué, qui est quand même assez décrit, les conséquences psychologiques sont décrites.
En fait,
mais
il décrit quand même qu'au début, c'est un peu douloureux, mais qu'ensuite, ça l'est moins.
C'est la perception qui est décrite. Et justement, cette chose très étrange dans la littérature, puisqu'elle n'avait pas été décrite, est abordée longuement par Genet. Et l'histoire, c'est que Querelle est un homosexuel passif. Il couche d'abord avec dans le roman, d'abord avec le mari de la tenancière du bordel, et il devient, j'emploie le mot de Genet lui-même, un enculé, et ça provoque des bouleversements dans son esprit. En quoi serait-il transformé? Un enculé, il le pensa avec terreur. En quoi est-ce un enculé? De quelle pâte est-ce fait? Quel éclairage particulier vous signale? Quel monstre nouveau devient-on? Et quel sentiment de cette monstruosité?
Tous ceux qui vivent des moments homosexuels dans le livre, aucun, à part le lieutenant, on y reviendra, ne se vit comme homosexuel. Hein. Et je crois qu'il découvre, en fait, dans le fait de le vivre passivement, quelque chose qu'a à voir, et c'est là où c'est très paradoxal et c'est passionnant, quelque chose qu'a à voir avec son propre pouvoir de domination. C'est en se laissant pénétrer qu'il domine les hommes qui pourtant pense à ce moment-là le dominer. Et ce qui est assez bouleversant aussi, c'est qu'il le dit à chaque fois qu'il s'offre, il n'aime pas. Il n'aime pas les gens à qui il s'offre. En revanche, quand il aura une homosexualité un peu plus active avec le personnage de Gilles Turcot à la toute fin du livre, là il dira, en renonçant à ma passivité, je vais l'aimer.
Oui, mais c'est parce que de Gilles, à la différence des autres, il est un peu amoureux.
Voilà.
Et c'est à toute différence. Et d'ailleurs, leur vocabulaire. Oui, c'est très intéressant.
Parce qu'il est aussi celui qu'il va trahir.
Bien sûr.
Donc en fait, on se rend compte dans ce livre que Querelle n'aime personne à part ceux. À part son frère, peut-être, et à part ce qu'il trahit et ce qu'il tue.
Tout au long du livre, il y a des interventions en italique d'un officier de marine qui est amoureux de Querelle, le lieutenant de vaisseau Seblon, de qui Querelle est l'ordonnance. Ce sont ses pensées, son journal intime. Et ce sont des rapports très, très intéressants. Il faut dire qu'à la fin, Querelle se donne à lui sous honteux et heureux, car Jean Genet à la jouissance de la honte, Querelle sourit d'être si près de la honte, d'où on ne peut plus remonter, en quoi il faut bien découvrir la paix.
Ah oui, et souvent d'ailleurs, chez Genet, on s'affranchit de la honte par la haine. Oui, c'est un beau personnage, le lieutenant Seblon, dans lequel peut-être Genet se projette beaucoup. Il pourrait être le narrateur, il ne l'est pas. J'aime beaucoup, moi, ça, cette espèce de jeu entre des personnages qui pourraient être des narrateurs et qui ne le sont pas. Ce il omniscient qui parfois colle tellement, épouse tellement ses personnages qu'il finit presque par parler de leur point de vue, même s'il prétend être omniscient. Et puis il y a des fois un nous qui fait irruption. Et qui est un nous de majesté dont on comprend pas bien d'où il sort, mais qui avec une espèce de liberté d'allure comme ça assez ahurissante, il circule entre toutes ces instances narratives et ça donne au récit une espèce de génie anarchique que moi j'aime énormément.
Et vous l'évoquiez, Stéphanie Pollack, Querelle est passif mais triomphal. Il est ce que Genet n'appelle pas, je crois que l'expression n'existait sans doute pas alors, un power bottom.
Non, je ne connaissais pas ça. Non.
Bon, voilà, ça existe. Et sa soumission, vous l'avez d'ailleurs déjà évoqué, lui attire des hommes qui le veulent tellement qu'il en fait ce qu'il veut.
Ah oui, c'est impressionnant. Il sent qu'il a ce pouvoir-là. Il sait pas exactement comment il peut en user, mais il finit toujours presque instinctivement, parce qu'encore une fois, il y a pas de vice. Ça, Genet le dit. Il y a pas de vice chez Querelle. Il est extraordinairement candide, mais il sent que ce pouvoir-là, il peut en faire quelque chose, et il est dans des espèces de stratégies de survie, alors même qu'il cherche aussi sa propre perte en permanence. Ça aussi, c'est intéressant. C'est vraiment un personnage. D'ailleurs, il le dit sur ses scènes de crime, par exemple. Il laisse des indices qui peuvent permettre aux policiers de remonter jusqu'à lui. Il porte sur lui, ce qui pourrait le perdre. Et cette façon qu'a le criminel, dans l'imaginaire de Genet, de s'exposer toujours à la possibilité de sa propre perte et à travers ça à l'acceptation du possible châtiment à venir, c'est à mon avis complètement central.
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça serait le sujet d'une autre émission, mais il y a beaucoup de réflexions et de querelles et des autres assassins sur la peine de mort et ce que ça peut faire.
Oui, alors moi je me suis même dit que, parce qu'ils ont fait une allusion à Weidmann, il faut quand même rappeler que Weidmann, c'est le dernier condamné à mort en place publique, c'est-à-dire c'était en 39, je crois. Genet le trouvait très beau, apparemment, et c'était, je crois, un des premiers, je dis peut-être une bêtise là, mais un des premiers serial killers qu'on n'appelait pas encore comme ça, mais il avait une figure comme ça de tueur en série. Querelle est un peu ça. Hein,
c'est le début du miracle de Marthe de la Rose. Weidmann vous a paru dans cette affiche.
Absolument. Et donc Weidmann, dernier criminel exécuté en place publique, je pense qu'il y avait chez Genet un dépit de cette monstration, voilà, la théâtralité de la mise à mort, parce que pour lui, ce qui conférait une aura particulière et qui confinait à la sainteté, on sait, hein, au criminel, c'était l'acceptation du châtiment qui devait être public pour que l'expiation soit complète.
Nous allons entendre le poème de Jean Genet, Le condamné à mort, à propos d'un certain Maurice Pilorge, cambrioleur qui avait assassiné son amoureux Escudero. Il est chanté par Étienne Dao sur une musique d'Hélène Martin, elle-même la première interprète de la chanson. Cette version date de 2010.
Arrache-toi la chair, tu escalade mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, vient sur ma bouche. Amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord. Des toits, des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière.
Stéphanie Pollack, Querelle de Brest est un roman cérémonieux. Genet montre un monde très codifié, les codes du bordel, des criminels, des militaires, querelle avec les siens, et surtout de la part des gens des milieux populaires, ils suivent une cérémonie de rite en rite, sexuel, meurtrier, etc. On dirait que Querelle suit une initiation et que, d'une certaine façon, c'est un roman d'apprentissage.
Oui, parce qu'en fait, ces crimes ne sont pas tout à fait des crimes, si on veut essayer vraiment de considérer l'acte. Ce sont des sacrifices. Je crois même qu'à un moment donné, c'est dit, d'être qui a presque besoin d'aimer pour tuer, en tout cas au moment où il les tue, on a presque l'impression qu'il les aime. Et ce qui se joue alors pour lui, ça n'a rien à voir avec le vol. D'ailleurs, le crime vient là, il s'est dit aussi pour sanctifier le vol.
Enfin, il dit aussi qu'il tue pour voler lui-même, Querelle. Peut-être
oui,
qu'il le dit.
Mais voilà, il le dit, mais dans les faits, c'est pas exactement ce qui se passe. Et c'est butin, ça aussi, je trouve ça assez poétique et assez joli. D'une certaine manière, il cache, il ne dépense pas l'argent, l'or qu'il dérobe. Il le cache, il a des cachettes comme ça dont il aime entretenir le souvenir dans le monde entier. Donc le meurtre vient là pour sanctifier le vol, et les meurtres sont là parce que quelque chose d'autre se joue que le meurtre lui-même, qui a à voir avec, à mon avis, ce que le personnage de Querelle défie en tuant, c'est-à-dire quelque chose, oui, qu'il dépasse, et qui a à voir avec, je sais pas, le propre défi qu'il tient à se lancer à lui-même pour se sentir être présent au monde, à la vie, et pour être un homme dignitaire, comme ça, d'une aura plus singulière qu'il ne le serait sans.
Est-ce que j'exagère si je dis qu'il tue aussi, sinon par esthétisme, du moins par délicatesse, car on nous raconte un meurtre à Shanghai, il crève l'œil d'un garçon dans une bagarre, et la phrase suivante est « écœuré par l'horreur pour sortir d'elle, il trancha la gorge du garçon ».
Oui, mais je crois qu'il y a aussi, il le dit, il fait presque une analogie là entre le crime, l'écriture et la sexualité. À quoi servent ces moments-là, le crime, l'écriture, la sexualité? C'est des moments qui nous sont possiblement offerts pour explorer la part la plus anarchique de soi, la part la plus asociale de soi. Et je pense qu'il y a ça aussi qui est en jeu. À chaque fois qu'il tue, et ça aussi, ça a à voir avec la virilité. Les femmes ou les personnages les plus féminins, si j'ose dire, sont souvent du côté de l'ordre moral, ils ont une espèce de rigueur. Les hommes sont du côté de la transgression, toujours, de la délinquance. Et parce que ce qui se noue à ce moment-là pour eux quand ils transgressent, c'est l'affirmation, justement, d'une virilité qui ne peut pas s'affirmer dans la loi, dans le respect de la loi.
Alors, Stéphanie Bollec, il y a quelqu'un que vous avez évoqué dans la première partie de l'émission, c'est son frère, c'est Robert Querelle, à qui il ressemble étrangement. Et les deux se détestent, en tout cas ils se battent, ils ont un lien qui n'est pas physique mais indéfectible. Et la Maquerelle, dont nous avons parlé, et qui est la maîtresse de Robert, a très bien compris, elle lui dit à un certain moment « vous vivez l'un dans l'autre ». Et elle est jalouse de cette exclusion.
Absolument. Genet dit même qu'à un moment, en fait, on commet aussi les actes qu'on commet ou les crimes qu'on commet pour pouvoir communier en soi à nouveau dans un lieu où on retrouve son frère. Il y a l'idée de retrouver son frère. Il se ressemble outrageusement, hein, c'en est presque gênant, ça trouble beaucoup et le policier et Lysiane évidemment elle-même. Mais je dirais que Robert est un personnage éminemment terrestre. Querelle, lui, a la force et le génie des gens qui viennent d'ailleurs, qui feraient avec le large. Ça aussi, hein, je crois que c'est important quand on parle du large, des liens que la mère entretient avec la possibilité du crime et la notion de large, les liens que la notion de large entretient aussi avec la virilité. Je pense que c'est très important. Donc quand il arrive depuis Le Vengeur, il charrie tout cet imaginaire-là, et du coup ça lui donne une espèce d'ascendant. Il serait la version un peu plus ensauvagée, je dirais, un peu plus candide, un peu plus enfantine aussi. À un moment donné, il y a une description par Lysiane du rire de Querelle, qui est un rire enfantin que jamais n'aurait pu pousser Robert.
Je crois que ce que, en réalité, les deux frères ont en commun, c'est la passivité. Georges est un passif homosexuel et Robert un passif hétérosexuel, et je vais citer le narrateur. Or, cette passivité véritable rencontrée en Querelle, nous la découvrons en Robert, qu'il se laissait aimer par Madame Lysiane.
Oui, mais là aussi, alors très étonnant, moi ça j'ai trouvé ça passionnant, il nous dit que c'est en se laissant aimer, comme il se laisse aimer, qu'il affirme sa virilité. C'est-à-dire que ça ne le féminise en rien. La scène d'ailleurs sexuelle entre Lysiane et Robert est assez bouleversante, parce que on voit comment l'immobilité, l'inanité de cet homme la pousse, elle, au contraire, à faire preuve de plus en plus d'audace, alors que c'est une femme au corps à la fois magnifique et éprouvé, hein, une femme de 45 ans, donc à cette époque de 45 ans, c'est vraiment un âge où on commence à devenir très mûre, elle est splendide, juchée sur ses talons, mais en même temps, elle est fatiguée, elle est inquiète, elle ne sait plus, quelque chose en elle se dévoue à la vie. Je crois que ça aussi, ça m'a marqué, parce que on dirait que dans l'imaginaire de Genet, les femmes ou le féminin, en tout cas, est quelque chose qui en vous se dévoue à la vie, quand chez l'homme, il y a au contraire une recherche de la passivité, une recherche de l'indifférence, une recherche de l'imperméabilité, au contraire. Et j'ai trouvé ça intéressant.
Je voudrais dire que parmi les choses très nouvelles qu'a apporté Genet dans ce roman, c'est qu'il ne fait pas la confusion qu'on faisait si souvent à l'époque l'époque et qu'on continue parfois à faire entre homosexualité et féminité. Ça n'est pas un défaut de virilité.
Absolument. Et ce qui aussi fonde la virilité des homosexuels et des hommes en général, mais là des homosexuels en particulier, c'est le calme aussi. Un homme, c'est quelqu'un qui se tient droit et calme au milieu de ses ténèbres intimes. C'est quelqu'un, dans le journal du voleur, il disait déjà que ce qu'il fascinait chez les voleurs, c'était cette tension au repos amoureuse des périls. Il y a ça chez Querel.
Et d'ailleurs, à la fin, on apprend la vraie différence entre les deux frères, entre les deux Querel. C'est au moment où Madame Lysiane couche avec Querel. Oui. Et c'est après tout important, puisque c'est aussi le roman de ça, c'est qu'ils ont deux verges qui ne se ressemblent pas du tout. Madame Lysiane s'en fait la remarque.
Oui, absolument, ils ne se ressemblent pas du tout. Et je crois que ça, c'est ce qui fera que Lysiane aimera Robert avec plus de tendresse, mais moins de splendeur. Je suis pas sûre, là, je restitue une mémoire, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'elle a tout à coup une espèce d'apitoiement.
Il y a aussi le petit moment de vengeance de Madame Lysiane dans cette scène, parce que quand Querel couche avec elle, elle dit « bande mou ». Et ça, c'est sa vengeance.
Oui, c'est vrai.
Je pense. Vraiment. Alors, Stéphanie Pollack, l'adaptation de Fassbinder, ça n'est pas un chef-d'œuvre, parce que même s'il y a une tentative d'esthétisation, de même que Genet esthétise, Dieu sait, elle se fait uniquement par la surcharge des couleurs en vert glauque, et il manque en particulier toute l'artificialité, dans le meilleur sens du terme, langagière de Genet.
Absolument, et puis alors là, pour le coup, il n'y a aucune transfiguration du kitsch, on est vraiment dans le kitsch, dans ce qu'il a d'épais, de pénible, mais ce que j'ai trouvé intéressant, je me suis dit, tiens, comme c'est étrange, non pas que je connaisse extraordinairement bien la filmographie de Fassbinder, mais quand même, je m'y étais intéressée, dans la filmographie de Fassbinder, qui quand même est essentiellement historicisé, connecté quand même à des problématiques sociales très fortes. Là, tout à coup, c'est une espèce de...
C'est son dernier film.
Il est mort, je crois, avant le montage. Et une espèce d'épisode comme ça, onirique. Alors, je crois qu'il voulait aller vers ça beaucoup. Il voulait aussi tourner un film sur l'expérience que c'était de prendre de la cocaïne. Il voulait aller vers des expériences plus intimes comme ça. Et il voulait adapter aussi Le Bleu du Ciel, je crois, de Bataille. Donc, il allait vers ça. Mais c'est quand même très, très incongru, quoi, dans la filmographie de Fassbinder. Et en même temps, il y a des tel jeu de résonance entre, ça, je crois que c'est Schlendorf qui en faisait la remarque, entre la trajectoire sexuelle de Fassbinder et celle de Querel, c'est-à-dire au départ, se vivant, se croyant hétérosexuel, alors qu'étant peut-être plus homosexuel qu'il ne le pense, puis vivant une forme de bisexualité plus ou moins assumée, et ensuite allant vers une hétérosexualité dont on va maîtriser au contraire assez extraordinairement tous les codes et qu'on va revendiquer de manière beaucoup plus militante. Donc il y a un jeu comme ça de résonance entre le personnage et Fassbinder qui peut-être a joué, et puis par ailleurs, il y a aussi peut-être un jeu de résonance entre Genet et Fassbinder, puisque je crois qu'ils ont eu deux amants qui se sont l'un et l'autre suicidés, le funambule Abdallah Bentaga pour Genet et Eladi Ben Salem pour Fassbinder, qui s'est suicidé lui aussi en prison.
À la décharge de Fassbinder, j'ai trouvé un entretien de lui avec Dieter Schieder de 1982, où il emploie un mot, à mon avis, très exact à propos de Querel, le roman. Il emploie le mot « utopie ».
Il fait de Brest, c'est très juste, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il fait de Brest, qui est pourtant une ville très incarnée, il en fait une utopie. Et ça, c'est vrai que pour le coup, on le retrouve totalement dans le film.
Stéphanie Pollack, que vous a appris le personnage de Georges Querel ?
Moi, il me fait m'interroger beaucoup sur ce dont on parle en réalité quand on parle de virilité. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et c'est de cette capacité peut-être, oui, à pouvoir frayer avec le large, frayer avec l'inconnu, frayer avec la transgression. Et ça n'a rien à voir avec des positions hiérarchiques, des positions sociales, ça n'a rien à voir avec l'ordre symbolique. Ce que le roman questionne, et ce qu'il a l'air de révéler, c'est que les notions de virilité et de féminité, si on veut vraiment les appréhender sérieusement, n'ont rien à voir avec l'ordre symbolique. C'est pour ça que la psychanalyse, sans doute, a échoué à les penser correctement.
C'était Personnage en personne, le 73e. La semaine prochaine, je parlerai des personnages créés par Lou Reed dans sa chanson « Walk on the White Side ».
Comme si j'étais assis là-haut paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Pascaline Bonnet, prise de son Delphine Baudet.
De ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël
Gaillot. C'était un grand jeu. dis tous les jours paradis de l'autre côté de la rue, mon paradis. Soudain